journal Loïc Barrière. L'ONU confirme que c'est un tir de l'armée israélienne qui a tué la journaliste Shirin Abu Akleh. Le président tunisien cible de menaces sérieuses selon le ministère de l'Intérieur qui évoque des parties extérieures et intérieures. Début samedi des Jeux méditerranéens à Oran, entretien avec Karim Amelal, ambassadeur de France pour la Méditerranée. Il y a 50 ans était adoptée la loi Pleven contre le racisme, entretien avec Kaltoum Gashi, coprésidente du MRAP. Enfin, la caravane passe a achevé une tournée dans plusieurs villes d'Algérie, une promesse que le groupe musical avait faite à Rachita, entretien avec le chanteur et musicien Thomas Fetterman. Shirin Abu Akleh a été tuée le 11 mai par un tir de l'armée israélienne. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Une conclusion à laquelle arrive l'ONU après une enquête auprès de l'armée israélienne et du procureur général palestinien. La journaliste palestinienne n'a donc pas été tuée par des tirs indiscriminés de Palestiniens armés, comme l'affirmaient d'abord les autorités israéliennes. De nombreux médias américains sont arrivés aux mêmes conclusions. Le ministère tunisien de l'Intérieur affirme que le président Kais Saied fait l'objet de menaces sérieuses contre sa personne. Fadila Khelifi, porte-parole du ministère, ajoute que les autorités tunisiennes ont mis au jour un plan impliquant des parties intérieures et extérieures, ciblant la sûreté du président dans le but, dit-elle, de porter atteinte à la sûreté de l'État et créer le chaos. Aucune précision n'a été donnée sur les personnes impliquées dans ces menaces. Toujours en Tunisie, deux policiers en faction devant une synagogue à Tunis ont été légèrement blessés dans une attaque au couteau. Cela s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. Le ministère tunisien de l'Intérieur affirme que l'attaque a été menée par un ancien détenu condamné dans une affaire de terrorisme. Il a pu être maîtrisé par les forces de l'ordre. Début samedi des Jeux méditerranéens d'Oran, une compétition qui réunira 26 pays du bassin méditerranéen. Au total, 3390 athlètes seront en compétition dans 24 disciplines. On écoute Karim Amelal, ambassadeur et délégué interministériel pour la Méditerranée.
Les Jeux méditerranéens, c'est une compétition internationale, méditerranéenne évidemment, qui réunit pratiquement tous les pays de la Méditerranée. C'est une compétition qui est extrêmement importante parce que les délégations qui se rendent dans la ville qui organise les Jeux sont en général nombreuses et Oran ne fait pas exception. Après Sfax, je crois qu'on en est à la 19e édition d'ailleurs des Jeux méditerranéens. Et bon, avec la pandémie, cette édition a été reportée, mais à Oran, il y aura de très nombreuses délégations. Alors je crois que 26 pays seront représentés, quelque chose comme ça, mais il me semble que c'est bien 26.
Oui, 26 et la comités France, nationaux.
Voilà, et la France, eh bien, sera l'un des pays qui enverra le plus de sportifs, et nous aurons une délégation qui s'élèvera, je crois, à près de 500 personnes, alors sportifs et accompagnants, et nous serons la deuxième ou troisième nation, je crois que c'est la deuxième nation la plus importante en termes de participants, et nous sommes évidemment très très heureux que cette 19e édition des Jeux se déroule à Oran, qui est une ville symbolique, qui est une ville méditerranéenne, qui est une ville que nous aimons beaucoup et que personnellement j'aime beaucoup. Donc pour toutes ces raisons, ce sera une compétition sportive internationale qui aura un sens sportif important et une portée symbolique remarquable.
Et la Méditerranée qui servira ainsi de vecteur.
Oui, bien sûr, c'est l'idée de ces jeux, hein. C'est l'idée de cette compétition depuis sa création. Elle sert de vecteur, de médiateur. C'est vrai que se rendront à Oran, eh bien, des délégations qui appartiennent à des pays parfois avec lesquels l'Algérie a des relations politiques qui peuvent être difficiles, compliquées, délicates. C'est le lot de tous les États, de toutes les nations, que d'avoir des relations parfois un peu difficiles. Mais précisément, cet événement, intervient à un moment où l'Algérie se repositionne sur la scène internationale, sur la scène méditerranéenne, et où ces jeux permettront justement de dépasser un certain nombre de difficultés politiques, mais pas seulement. Et puis je voudrais dire aussi que, parce que j'ai eu l'occasion de m'y rendre il y a quelques jours, quelques semaines, les infrastructures sportives sont assez, sont même tout à fait remarquables. Et à côté des jeux se dérouleront un certain nombre de side events, d'événements parallèles sur le plan culturel. La France en organise d'ailleurs un certain nombre. Donc je crois que ce seront à la fois des jeux et donc une compétition sportive tout à fait passionnante, mais aussi un événement pas seulement symbolique, mais aussi culturel, et bien qui apportera un moment où la Méditerranée en a bien besoin, et bien une comme vous dites une dimension de médiateur, une dimension tout à fait positive.
Et c'est un élément important, bien entendu, également pour l'image de l'Algérie.
Absolument, absolument. C'est une compétition internationale et c'est bien que l'Algérie organise cette compétition-là, c'est bien que ces Jeux se tiennent à Oran. Alors, nous le savons, ça n'a pas été facile, ça n'est facile pour personne, ça n'a pas été facile pour l'Algérie et les Algériens parce que, comme bien d'autres pays, et en premier lieu la France, ils se sont pris dans la figure quelque chose que personne n'attendait, c'est le Covid, qui a duré longtemps, qui a paralysé beaucoup de choses. C'est d'ailleurs pour ça que ces Jeux ont été décalés, je le disais, et donc ça a occasionné un certain nombre de difficultés de construction, d'implantation d'infrastructures, mais tout ça est maintenant derrière nous et derrière eux, et ils sont parvenus, ils ont vraiment fait la preuve d'une résilience remarquable en arrivant malgré toutes ces difficultés à délivrer ce qu'ils devaient délivrer pour ces Jeux. Et malgré toutes les difficultés liées à la pandémie. Donc c'est pour l'Algérie, ce sera pour l'Algérie un moment tout à fait important et un moment, je crois, de rayonnement de l'Algérie qui est le pays hôte, mais aussi à un moment de rayonnement de la Méditerranée, de tous les pays qui participeront à cette belle compétition.
Karim Amela, l'ambassadeur et délégué interministériel pour la Méditerranée, il répondait à François-Xavier de Calonne. Plus de 2000 migrants partis du Maroc ont essayé d'entrer ce vendredi à Melilla. 130 d'entre eux ont réussi à pénétrer dans l'enclave espagnole. Il s'agit de la première tentative d'entrée massive à Melilla depuis la normalisation des relations entre Madrid et Rabat. En Irak, une roquette s'est abattue près d'un complexe gazier du nord du pays. C'est le deuxième tir en 48 heures. Il n'y a pas eu de blessés. En Iran, la police a arrêté plusieurs jeunes filles car elles avaient retiré leur hijab lors d'un événement de skateboard. Cela s'est passé à Shiraz, dans le centre-sud du pays. Des organisateurs de la compétition ont également été arrêtés. La loi du 1er juillet 1972, dite loi Pleven, a bientôt 50 ans. Depuis cette date, le racisme n'est plus une opinion en France, mais un délit. L'invité de rencontre hier était l'avocate Kaltoum Gashi, coprésidente du MRAP. Le MRAP organise une journée de débat sur les 50 ans de cette loi contre le racisme, ce samedi à la Bourse du Travail à Paris. On écoute Kaltoum Gashi.
Cette loi, elle a évidemment une importance cruciale et je dois dire que le contexte actuel la rend plus que jamais indispensable. Elle a été adoptée à l'unanimité des parlementaires. Je crois que ça mérite d'être souligné. Je crois aussi que si on la soumettait à notre Assemblée nationale actuelle, eh bien on serait hélas très loin de cette unanimité. Elle fait suite, cette loi de 72, à un décret Marchandeau qui était assez indigent en matière de lutte contre le racisme sous toutes ses formes. Le MRAP a travaillé d'arrache-pied sur la nécessité de faire adopter une législation adaptée en matière de lutte contre le racisme par l'intermédiaire de son président Léon Lioncamp, qui a été président du MRAP de 53 à 62. C'était un éminent juriste, président de la Cour de cassation. Et cette loi s'est alors imposée. Alors, vous disiez loi Pleven, et c'est vrai qu'on la retient sous cette dénomination.
C'était le nom du ministre de la Justice de l'époque.
Absolument, mais ce n'est pas une origine gouvernementale. Hein. On est bien en présence d'une proposition de loi. Et le personnage emblématique de ce point de vue, c'est surtout le rapporteur de cette proposition de loi qui était Benjamin de l'Assemblée nationale, monsieur Alain Ternoir, que j'ai d'ailleurs personnellement interviewé pour ce 50e anniversaire.
Il sera présent samedi.
Alors, il a une impossibilité d'être physiquement présent, mais il a tenu à rappeler ce qu'il en était de cette loi et ce qu'il en était aussi du rôle crucial du MRAP. Je l'ai interrogé il y a donc quelques jours sur sa perception de la loi de 72 au regard du contexte actuel.
Mais il y avait un contexte politique particulier à l'époque qui a poussé le MRAP justement à contacter les députés de l'époque pour faire adopter cette loi contre le racisme.
On était aussi en France à quelques années de la fin de la guerre d'Algérie avec une nécessité aussi de respecter les différences et de sanctionner beaucoup plus efficacement les comportements, les actes, les propos racistes. Donc, on est dans cette volonté de d'efficacité avec une possibilité qui a été adoptée par cette loi et qui est très importante pour les associations de pouvoir se constituer partie civile à l'occasion d'actes ou de propos racistes. Et le MRAP a appelé de ses voeux cette initiative. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes présents dans un procès de lutte contre le racisme. On est aussi dans un contexte où la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été adoptée. Sous l'égide des Nations Unies en 65. Elle a été ratifiée par la France en 71. Donc il y a aussi une volonté interne, mais également internationale, de faire en sorte que le racisme ne soit plus, n'est pas, d'ailleurs il faut rappeler comme un leitmotiv, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit, et c'est la force de cette loi de 72 de l'avoir rappelé.
Kaltoum Gachi, coprésidente du MRAP. Enfin, le groupe français La Caravane Passe vient d'effectuer une tournée en Algérie. Les musiciens ont été accueillis à Annaba, Oran, Tlemcen, Alger et Constantine. Jazz manouche, fanfare balkanique, une musique joyeuse et métissée. La Caravane Passe, fondée en 2001, avait notamment travaillé avec Rachita. On écoute Thomas Fetterman, musicien et chanteur de La Caravane Passe.
Alors, on est arrivé mercredi dernier. Et là, on est sur la fin de la tournée, en réalité. On a commencé la semaine dernière, on jouait à Annaba pour commencer. Après, on a été à Oran, après à Tlemcen. On était à Alger le jour de la fête de la musique. Et aujourd'hui, là, on est à Constantine. Oui, c'est un pays très important, en effet, pour nous. On a commencé la Caravane Passe en faisant des musiques en général qui évoquent le voyage, donc c'était beaucoup de musique tzigane, beaucoup de musique des Balkans, etc. Et on a très vite élargi le répertoire avec les musiques orientales, surtout qu'au troisième album, quand on a rencontré Rachid Taha, c'était en 2009, et depuis on s'est plus quitté, en particulier lui et moi, puisque on a travaillé beaucoup ensemble jusqu'à faire son dernier album tous les deux, en fait, où j'étais à ses côtés pendant près de 3 ans pour faire l'album qui est devenu son dernier album, qui est Je suis africain. On s'était promis, il m'avait promis, on fera la tournée ensemble, je t'emmènerai en Algérie, dans mon pays, je t'emmènerai dans mon village, etc. Et malheureusement, il est parti avant. Et c'est la première fois qu'on met les pieds ici en Algérie, donc effectivement, c'est assez intense. Et il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de bonheur aussi. Exactement, là on concrétise le rêve qu'on avait fait ensemble.
Comment a réagi le public algérien à vos concerts?
Ben, pour être parfaitement honnête, on se sent ici comme à la maison. C'est-à-dire que vraiment, moi j'ai personnellement j'ai J'ai grandi à Ménilmontant, donc c'est un quartier où il y a beaucoup d'Algériens, notamment des Kabyles, mais pas que, il y a beaucoup d'Algériens en général. Et j'ai toujours eu beaucoup d'amis d'Algérie, mais j'étais jamais allé en Algérie. Donc je suis pas déçu du tout, j'ai l'impression que c'est très naturel, les gens sont très gentils, très curieux de tout, etc. Et pour les concerts, là, il suffit qu'on fasse quelques notes, qu'on explique aux gens que c'est de la musique faite pour danser, et tout le monde est debout tout de suite. Et ça, c'est très appréciable. Et autre chose qui est très appréciable, c'est l'attention qu'a le public pour les paroles. Ils écoutent à la fin des concerts, je passe du temps avec le public toujours, et tout le monde m'interroge, ah, à tel moment t'as chanté ça, t'as dit ça, est-ce que ça, c'est ça? Et c'est très, très, très agréable. On a vraiment un public de qualité ici.
J'ai l'impression qu'il y a peu de groupes français qui viennent tourner en Algérie. C'est aussi un événement, le simple fait de vous déplacer.
Oui, alors il y en a, mais c'est vrai que il y a un historique entre la France et l'Algérie qui fait que c'est pas évident pour l'Algérie de dire tiens, on va inviter plein de groupes français à venir. Ils ont aussi envie, je pense, de faire de continuer à construire leur propre culture. Mais voilà, je pense qu'il y en a quand même de plus en plus qui viennent. La porte est pas fermée. En tout cas, j'ai pas eu le sentiment que la porte était fermée. Mais c'est vrai que il faut un visa de toute façon, et en particulier pour les Français. Et c'est vrai que c'est pas facile forcément de venir comme ça. Mais en revanche, l'Institut français, là, dans toutes les villes où on a été, est très bien implanté, très très apprécié, très respecté. Il y a beaucoup de gens. Les instituts français ici, c'est comme des centres culturels. C'est vraiment les Algériens viennent passer la journée, lire, écouter de la musique, ils vont aux médiathèques, etc. Ils vont regarder des films. C'est un lieu de sortie naturel pour les gens.
Vous avez joué de la musique en Algérie. Est-ce que vous avez écouté aussi des musiciens algériens?
Oui, le premier soir, il y avait une fête dans un restaurant où on était, où on a pu écouter un petit peu de raï avec du clavier, ce qui était un vrai plaisir à Annaba. On a aussi eu la surprise à Tlemcen de tomber sur un mariage dans la rue. Donc là, il y avait les musiques de mariage, ce qui était absolument génial. Et puis sinon, il y a beaucoup les chauffeurs de taxi, tout ça. Quand on leur dit qu'on est musicien, ils nous font écouter beaucoup de musique. Donc on découvre aussi des nouveaux artistes, on note tout le temps, etc. Et puis à part ça, on a quand même cette mauvaise habitude avec la caravane passe dans tous les pays d'aller chiner des instruments de musique. Donc il y a Zinzin, le saxophoniste et flûtiste du groupe, qui a pas arrêté d'acheter des nouvelles flûtes. Et moi j'ai acheté un banjo à Algérien, j'ai passé du temps aussi pour le chercher et je suis très content.
Et vous avez le sentiment que ce voyage va influencer encore votre musique à l'avenir?
Oui, d'ailleurs, avant de partir, j'avais au téléphone Hakim Amadouche, qui était le joueur de mandol de Rachid. Et la veille au soir, il me disait, tu vas voir, quand tu seras en Algérie, tu vas avoir plein de nouvelles idées de musique. Et c'est vrai, t'arrêtes pas d'enregistrer des idées de paroles, des idées de musique, etc. Oui, comme tous les voyages, et celui-là particulièrement, mais oui, ça nous influence.
Thomas Fetterman, musicien et chanteur du groupe La Caravane Passe. Cette édition est terminée. L'invité de Pluriel ce vendredi à 19h et 23h est Nicolas Jeanneté, vice-président du groupe Changer Paris. Excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.